Ce soir, nous recevons Jean-Louis Ball, qui est directeur des énergies renouvelables à l'ADEME, pour donc une conférence intitulée « Les énergies renouvelables ». Et cette conférence, donc, comme je vous le disais, clôt ce cycle. Et vous pourrez donc toutes les retrouver sur Internet, sur le site de utls.fr. Un petit mot, effectivement, sur la délocalisation du programme à Bordeaux, en parallèle de celui de Paris, qui a permis d'élargir les questions posées et a témoigné de l'intérêt et de l'urgence à sensibiliser très largement tout citoyen à l'évolution des gestes de notre vie quotidienne dans le cadre du développement durable. Pour les prochaines conférences de l'UTLS, donc elles auront lieu du 9 au 18 octobre 2009, autour du thème « La Turquie, aujourd'hui, demain ». Je vous renvoie donc au petit programme qui est disponible à l'entrée de l'amphithéâtre, sur lequel vous pourrez voir tous les modes de diffusion de ces conférences, que ce soit sur Internet ou à la radio. Pour ce qui est de la radio, ce cycle de conférences pourra être, donc vous pourrez l'entendre en diffusion dans l'émission L'Éloge du Savoir, le matin, entre 6h et 7h, mais ça ne sera pas avant le mois de septembre, puisqu'en ce moment sont diffusées les conférences qui avaient eu lieu ici même en octobre 2008 sur les humanités. Donc j'en viens à la présentation de notre conférencier de ce soir, Jean-Louis Ball. Il est directeur des énergies renouvelables, des réseaux et des marchés énergétiques à l'ADEME. Quelques mots concernant son parcours. En 1971, il est ingénieur civil électricien de l'Université catholique de Louvain, en Belgique. De 72 à 74, professeur d'électronique à l'Université nationale du Zaïre, Institut supérieur de technique appliquée. De 75 à 85, cofondateur et directeur commercial de la société IDE, en Belgique, spécialisée en fabrication, ingénierie et installation de systèmes photovoltaïques et solaires thermiques. De 85 à 92, directeur commercial régional en Afrique, ensuite en Europe et en Asie, à la société Cronard France, devenue ensuite NAPS France, spécialisée dans la fabrication de modules photovoltaïques au silicium amorphe. De 92 à 93, il est chef du programme prioritaire énergie renouvelable à l'ADEME. De 93 à 2003, directeur adjoint du bâtiment et des énergies renouvelables, chargé des énergies renouvelables. Et depuis le 1er janvier 2004, directeur des énergies renouvelables, des réseaux et des marchés énergétiques. Donc désormais, je lui cède la parole, après quoi vous pourrez lui poser pendant une vingtaine de minutes toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup.
Merci et bonjour à tous. Alors, l'ADEME, effectivement, donc, c'est un établissement public qui dépend donc, du ministère de l'écologie et de l'énergie, de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. C'est très long. Et parmi nos missions donc, figure donc, le développement des énergies renouvelables. Nous sommes un peu, surtout depuis le Grenelle de l'environnement, le bras armé du ministère pour mettre en œuvre une partie donc des objectifs qui ont été formulés dans le cadre du Grenelle. Alors moi, j'ai intitulé ma conférence donc les énergies renouvelables, un des éléments de lutte contre le changement climatique, parce que ce n'est pas la solution miracle, ce n'est pas à partir des énergies renouvelables qu'on va tout faire. Il y en a d'autres, et au premier de ces éléments de lutte contre le changement climatique, il y a avant tout la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique. Et j'aimerais, en introduction, donc, insister sur cet élément. Nous avons devant nous un défi qui est considérable. Je suppose que vous avez eu dans les autres conférences suffisamment d'informations donc, sur le changement climatique et les objectifs à l'horizon 2050, donc de division par quatre au niveau français, donc de nos émissions de gaz à effet de serre, de division par deux au niveau mondial. Il faut savoir que dans l'histoire de l'époque industrielle de l'humanité, on n'a jamais connu de croissance économique couplée à une diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on a reconstitué ces émissions de gaz à effet de serre depuis le début de l'ère industrielle. Et les seuls moments où on a connu une diminution de ces émissions de gaz à effet de serre, eh bien, c'est pendant les guerres, c'est au moment du krach de 1929, c'est au moment des chocs pétroliers, C'est au moment de l'effondrement des économies des pays de l'Est après la chute du mur de Berlin. Donc on n'a encore jamais réussi à faire de la croissance décarbonée, comme on dit aujourd'hui. Donc c'est vraiment un défi considérable qui nous oblige à repenser toute la philosophie donc, de la consommation d'énergie. Et donc il faut avant tout commencer par définir au mieux et optimiser donc, nos besoins. Nos besoins, ils ne s'expriment pas en énergie, ils s'expriment en besoin de lumière pour s'éclairer, de froid pour conserver nos aliments, de chaleur pour maintenir une température normale dans le logement. Ils s'expriment en termes de déplacement dont nous avons besoin. Et c'est à partir de cette détermination des besoins qu'il faut définir les moyens les moins impactants sur l'environnement pour satisfaire ces besoins. Et à partir de là, on pourra voir comment on peut satisfaire ces besoins à partir donc d'énergie renouvelable et avec des perspectives qui vont s'étaler dans le temps. Donc il faut bien avoir en tête que les énergies renouvelables, elles ne pourront pas faire des miracles tout de suite, mais vous allez voir qu'à plus long terme, elles peuvent tout faire, par contre. Alors, quand on parle d'énergie renouvelable, de quoi parle-t-on ? On parle donc essentiellement des énergies qui sont issues du soleil. Alors, directement, on peut transformer l'énergie venant du soleil en chaleur ou en électricité. Mais c'est aussi donc toutes les énergies qui viennent indirectement du soleil, hein, qui est le vent, l'hydraulique, toutes les énergies qu'on va retrouver dans les océans avec les courants marins, avec la croissance des algues, etc. La biomasse, donc, qui est également c'est l'ensemble des ressources végétales et animales donc, qu'on peut également transformer en énergie et dont la croissance n'est possible que grâce à l'apport du soleil. Il y a une deuxième sorte d'énergie renouvelable, c'est celle qui vient du magma terrestre, donc de la chaleur que nous avons, qui nous vient donc du centre de la Terre, et qui est donc la géothermie. Alors, on dit renouvelable, effectivement, donc ce sont des énergies qui sont inépuisables, au moins tant que le Soleil et la Terre vivront, c'est-à-dire pour environ 5 milliards d'années, donc on a encore du temps devant nous. Mais il faut aussi avoir conscience qu'elles sont en quantité limitée dans le temps et localement, donc on ne peut pas avoir des sources illimité donc de ces énergies, sauf à multiplier les surfaces. Ce sont également donc des énergies qui ont très peu d'impact environnementaux et notamment elles n'émettent pas de gaz à effet de serre au moment où on les utilise. Cela n'empêche pas qu'elles peuvent avoir aussi des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre parce qu'il faut des matériaux ou des matériels pour les utiliser, que pour fabriquer ces matériels, il faut émettre des gaz à effet de serre. On peut aussi avoir, et vous le verrez tout à l'heure, avec la biomasse, donc des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à la culture. Autre impact environnementaux, il peut y en avoir. Il n'y a pas d'énergie qui soit absolument sans défaut. Donc quand vous brûlez du bois, donc qui est de la biomasse, vous pouvez avoir des émissions qui ne sont pas bonnes pour la santé, donc il peut y avoir aussi des impacts négatifs. Vous pouvez avoir des impacts sur le paysage avec des éoliennes. Vous pouvez avoir des fabrications de panneaux photovoltaïques qui sont relativement polluantes. Enfin, il y a toujours des impacts négatifs, donc il faudra aussi en tenir compte. Pour une partie de ces énergies renouvelables, elle ne possède pas ce qu'on appelle de la puissance garantie. Effectivement, donc quand on capte directement du soleil ou du vent, eh bien la puissance elle dépend de la quantité de soleil ou la quantité de vent qu'il y a sur le moment. On ne peut pas déterminer la puissance en fonction du besoin. Ce n'est pas le cas pour toutes les énergies donc renouvelables. La biomasse, on peut la stocker et l'utiliser au moment où on en a besoin. L'hydraulique, c'est encore mieux. Elle, on peut l'utiliser effectivement quand on en a besoin. On peut la stocker sur des très longues périodes et elle peut permettre d'améliorer le fonctionnement d'autres sources d'énergie. Elle peut permettre notamment à des centrales nucléaires ou à énergie fossile de fonctionner toujours à leur puissance nominale. Et lorsqu'il n'y a pas assez de consommation pour absorber l'énergie produite, on peut faire remonter de l'eau dans les barrages. Et donc, c'est une énergie extrêmement précieuse, on va le voir tout à l'heure, qui permet donc d'optimiser le fonctionnement des autres sources d'énergie. Et finalement, autre caractéristique importante, c'est que ces énergies qui ont connu un développement très récent, pour la plupart d'entre elles, ne sont pas encore économiquement compétitives et donc demandent encore des soutiens publics pour assurer leur développement. Ce n'est pas le cas pour toutes. Donc, par exemple, l'hydraulique, qui est une énergie qu'on utilise depuis longtemps, est une énergie extrêmement compétitive. Le bois de chauffage est également quelque chose de tout à fait compétitif, mais les nouvelles formes d'énergie, comme le solaire ou l'énergie éolienne, la géothermie, le biogaz, etc., sont des sources d'énergie qui demandent aujourd'hui encore un soutien public. Alors pour illustrer donc, voilà les deux grandes sources dont nous disposons, donc le soleil qui nous envoie en permanence, alors ça vous paraîtra peut-être peu, 342 watts par mètre carré, mais c'est en permanence et vous allez voir que ça donne des quantités très grandes donc d'énergie. Et l'autre source, donc, qui est le cœur de la Terre. Alors, cette énergie solaire, pour à peu près 75%, elle est captée par les océans, et ce qui nous détermine donc le cycle hydrologique, qui nous permet ensuite de faire de l'hydraulique. Ça permet également d'avoir des courants marins, ça permet également d'avoir des différences de température qui vont engendrer, vous allez voir sur l'image suivante, qui va engendrer donc des mouvements d'air et donc du vent. Et finalement, donc, ce soleil, sur les parties terrestres, il permet donc de la croissance des plantes qui va, elle, se transformer en énergie. Cette énergie donc, solaire, elle est également donc, la source de l'énergie éolienne au niveau de la planète avec donc un... Les zones les plus chaudes qui sont situées à l'équateur et les plus froides qui sont situées donc au pôle, l'air chaud monte et il est ensuite il attire donc l'air froid qui vient lui des pôles et donc vous avez ce mouvement qui est influencé ensuite par la rotation de la Terre. Vous avez également donc des mouvements plus locaux aux abords donc des mers et donc qui s'inversent entre le jour et la nuit, la surface de l'eau étant à température plus stable que celle de la Terre. Donc pendant la journée, la Terre est plus chaude que la mer et inversement. La géothermie, donc là, la plus facile à utiliser, donc c'est celle qu'on retrouve dans les ressources aquifères. Et là, on peut avoir des ressources à température relativement élevée, même très élevée, dans les zones magmatiques, donc les zones à activité magmatique importante ou à activité volcanique récente. Vous avez donc enfoncé donc ces zones. Mais donc, il y a également d'autres zones avec des températures moins élevées, comme ici en région parisienne, vous le verrez tout à l'heure, où on peut utiliser la géothermie. Dernière source, qui elle n'est ni l'énergie solaire directement, en tout cas pas celle l'énergie propagée par les rayons, c'est donc les marées sur nos océans, qui sont, là c'est une source d'énergie qui est provoquée par les variations de la gravité suivant donc la position du soleil et de la mer, du soleil et de la lune, pardon. Mais là, vous allez voir sur les images, sur le tableau suivant, que ce sont des quantités d'énergie qui sont relativement faibles. Alors voilà, pour vous donner donc un ordre de grandeur de la ressource dont nous disposons. Si on prend comme unité la consommation totale de l'humanité, alors j'ai pris le chiffre de 2002, l'ordre de grandeur est resté le même donc depuis 2002. on prend ces 10,8 milliards de tonnes équivalent pétrole comme unité 1. Et voilà, l'énergie solaire qui est interceptée donc par la Terre, c'est à peu près 12 000 fois la consommation de toute l'humanité. Alors, une partie de cette énergie est renvoyée donc par l'atmosphère qui entoure la Terre. Mais ce qui arrive encore sur la Terre, c'est toujours plus de 8 000 fois la consommation totale de l'humanité. Ça veut dire qu'en 50 minutes, la Terre a reçu toute l'énergie dont elle a besoin pour l'année. Alors, une grande partie donc, de cette énergie est absorbée par l'océan et fournit donc le cycle hydrologique. Une autre partie donc, est la croissance de la biomasse. Vous voyez que c'est encore 2,8 fois la consommation totale de l'humanité. Ceci dit, la photosynthèse, donc la croissance de la biomasse, elle sert avant tout à se nourrir, à faire des matériaux de construction. Vous êtes tous assis sur des bancs en bois. Il vaut mieux donc utiliser d'abord la biomasse pour se nourrir et pour construire, mais il reste encore quand même pas mal de ressources pour faire de l'énergie. L'ensemble de tous les courants, vent, courant marin, la houle qui est provoquée par le vent, ça donne également donc des quantités d'énergie importantes, donc 26 fois la consommation de l'humanité. Les marées, je vous l'avais dit, c'est relativement faible, ce qui n'empêche pas d'avoir des utilisations ponctuelles qui peuvent être intéressantes. Et donc la France a été une pionnière donc, dans le domaine avec l'usine marémotrice de la Rance. Et finalement, donc, l'énergie qui nous vient de la Terre, donc vous voyez que la conduction dans les roches, c'est quand même beaucoup plus faible que l'énergie qui nous vient du Soleil. Donc le flux d'énergie qui nous vient du centre de la Terre est beaucoup plus faible, à peu près 4000 fois plus faible que l'énergie qui nous vient du Soleil. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que sur la géothermie, ce n'est pas le flux que l'on va utiliser, mais c'est l'énergie qui est stockée dans la croûte terrestre et qui recèle donc des quantités beaucoup plus importantes que la totalité des énergies fossiles que l'on peut trouver sur la Terre. Alors, ça, c'était les ressources. Maintenant, où en est-on donc dans l'utilisation actuellement donc des énergies renouvelables dans le monde? L'utilisation de l'énergie aujourd'hui, c'est essentiellement donc des combustibles fossiles, donc des émissions de gaz à effet de serre, pour près de 80%. Le nucléaire fait au total à peu près 3% de l'énergie de l'humanité. Et puis, donc, l'utilisation des énergies renouvelables pour 18%, la plupart de cette énergie étant utilisée par de la biomasse à usage traditionnel, c'est-à-dire le chauffage et la cuisson, et pour une grande partie, donc dans les pays en développement, de façon qui n'est pas toujours très, très optimale, ni parfois très bonne pour la santé. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il faudra arrêter d'utiliser la biomasse dans les pays en développement, mais qu'il faudra probablement l'utiliser de façon complètement différente. Concernant donc la production d'électricité, où on a des chiffres beaucoup plus précis que sur les autres usages, voilà l'évolution donc de la production d'électricité dans le monde en milliards de kilowattheures. Donc pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça représente, un terawattheure, donc c'est un milliard de kilowattheures, vous consommez normalement 3000 kilowattheures pour un foyer. Et donc, ce qu'il faut remarquer sur ces tableaux, c'est d'abord que les énergies renouvelables progressent assez régulièrement, mais elles progressent beaucoup moins que les énergies fossiles et que donc nous avons toujours sur la production d'électricité une prédominance très large des énergies fossiles. Parmi les énergies renouvelables, c'est de très loin l'hydroélectricité qui est la plus importante, mais on a une progression très forte de l'énergie éolienne. Et si j'avais pu trouver les chiffres 2008 pour la totalité des filières, je vous aurais mis les chiffres de 2008. Pour l'éolien, on connaît, on est arrivé à un peu plus de 200 TWh. Donc l'éolien revient à peu près maintenant au même niveau que la biomasse et donc est à peu près la deuxième des énergies renouvelables. Énergie marine, hein, vous voyez qu'on est à peu près stable tout le temps, c'est essentiellement l'usine de marée motrice de la Rance qu'on retrouve là-bas. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'essentiel de l'électricité dans le monde, c'est de l'énergie fossile, émettrice de gaz à effet de serre, et que lorsqu'on parle de développement de véhicules électriques, il faudra bien s'assurer que derrière le véhicule électrique, on aura de l'énergie électrique sans CO2, faute de quoi un véhicule électrique alimenté par de l'électricité fossile, c'est un rendement qui est bien inférieur à celui d'un moteur à essence fonctionnant directement. Et donc, en dehors d'un pays comme le nôtre, où l'électricité est un très faible contenu en CO2, la voiture électrique, ce n'est pas aujourd'hui une bonne solution. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Ça veut dire aussi qu'il faut transformer donc le système de production d'électricité. Ou alors charger directement vos véhicules électriques avec des énergies renouvelables. Donc les énergies renouvelables, donc je vais les regarder suivant donc les trois types d'utilisation, le transport, la production de chaleur et ensuite donc la production d'électricité. Alors je vais regarder ça principalement vu du point de vue français. C'est assez représentatif de ce qui se passe dans le monde entier, à une exception près, c'est que je n'aborde pas dans la conférence, mais on pourra peut-être y venir dans la discussion, c'est les besoins spécifiques dans les pays en développement, où il y a à peu près 1,6 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui, et pour lesquels donc les énergies renouvelables peuvent et rendent déjà un grand nombre de services énergétiques en dehors des réseaux. Donc je commence par la biomasse parce que c'est une énergie avec laquelle on peut tout faire. Alors je vous ai dit tout à l'heure que la biomasse, il faut d'abord l'utiliser pour se nourrir, ensuite pour des matériaux de construction. Mais lorsqu'on veut en faire de l'énergie, on peut pratiquement faire tout ce qu'on veut avec de la biomasse. On peut en faire des carburants, on peut la brûler pour faire directement de la chaleur. On peut la brûler pour faire de l'électricité. On peut faire de la cogénération, c'est-à-dire à la fois de l'électricité et de la chaleur. Donc c'est vraiment, et on peut la stocker en plus, c'est vraiment donc la plus pratique donc de nos ressources, mais avec cette contrainte qu'il faut privilégier l'usage nourriture et matériaux auparavant. On a en France une ressource en biomasse qui est tout à fait considérable. Ici, vous avez les chiffres en millions de mètres cubes, uniquement pour la biomasse provenant de la forêt. À cette ressource, il faut ajouter tous les déchets agricoles, qui est également une ressource considérable. Et ici, vous voyez qu'on a un accroissement biologique de la forêt, donc qui est de 83 millions de mètres cubes plus les 12 millions de mètres cubes de petits bois. En gros, 100 millions de mètres cubes, et qu'il y a à peu près seulement la moitié de cet accroissement biologique qui est utilisé aujourd'hui à la fois pour un usage matériaux et un usage énergie, ce qui signifie qu'on dispose donc d'une ressource qui est de l'ordre de 40 millions de mètres cubes chaque année, donc c'est l'accroissement annuel, pour faire à la fois plus de matériaux, pour nos constructions, par exemple, et à la fois plus d'énergie. Quand on regarde l'ensemble des ressources en biomasse en France, on estime donc que la totalité de ce qu'on pourrait utiliser pour faire de l'énergie, c'est de l'ordre de 40 millions de tonnes équivalent pétrole. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, la consommation en énergie finale de la France, elle est de 167 millions de tonnes d'équivalent pétrole. En énergie primaire, donc, elle est de 265. Et donc, si on rapporte ça donc, à notre consommation en énergie primaire, ça représente 15% qu'on pourrait faire à partir de la biomasse. Si on utilisait tout pour faire des carburants routiers, c'est une vue de l'esprit, mais ça représenterait 30% de notre consommation de carburants routiers, Si on l'utilisait entièrement pour faire de la chaleur, ça représenterait 75% donc de notre consommation. Donc c'est une ressource qui est à la fois très grande, mais également limitée, donc on ne peut pas tout faire. Et donc il y a une hiérarchisation à faire entre les différents usages. Et peut-être que la priorité est à donner au carburant, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de polémiques à ce sujet. La chaleur, où on a un usage optimal, et puis finalement l'électricité, mais uniquement en cogénération, parce que lorsqu'on fait de l'électricité à partir de la biomasse, on a des rendements très faibles, et ça permet surtout de chauffer les petits oiseaux. Donc si on récupère la chaleur, ça peut être quelque chose de rationnel. Alors les biocarburants, quel est le potentiel des biocarburants en France ? Aujourd'hui, on peut faire des biocarburants à partir de l'agriculture de type alimentaire, donc en utilisant des graines, alors des graines d'oléagineux, des graines de sucre, etc. À partir donc de cette agriculture de type alimentaire, on pourrait produire donc environ 5 millions de tonnes équivalent pétrole, c'est-à-dire à peu près 10% de la consommation de carburant, et cela au prix de l'utilisation d'un peu plus de 3 millions donc, d'hectares sur donc, les 18 millions d'hectares cultivables dont nous disposons. Et il faut rappeler donc, que nous avons en jachère 1,5 million d'hectares, que nous consacrons à peu près 4 millions d'hectares à de la culture d'exportation, qui est largement subventionnée. Donc faire 5 millions de tonnes équivalent pétrole à partir de l'agriculture alimentaire, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, sans pour autant donc diminuer notre autosuffisance alimentaire. Pour aller plus loin, il faudra développer des carburants dits de seconde génération, c'est-à-dire des carburants que l'on peut produire à partir de la plante entière, de la matière lignocellulosique. Cette fois-ci, ce n'est plus uniquement la graine. Et là, on estime que l'on pourrait, à partir donc de cette ressource, mais avec des technologies qui n'existent pas encore à l'échelon industriel aujourd'hui, produire également donc de 5 à 7 millions de tonnes équivalent en pétrole, soit de 10 à 14% de la consommation actuelle. Et donc, vous voyez que le potentiel total des biocarburants en France, il est de l'ordre de 20 à 24% de la consommation. Mais il faudra veiller donc à ce que cette consommation n'augmente pas, et même il faudrait essayer qu'elle diminue pour qu'on puisse avoir une meilleure autosuffisance. Alors, ces biocarburants, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils ne sont pas bons ? Et il y a beaucoup d'opinions divergentes sur le sujet, et je vais essayer de vous expliquer, je ne vais pas vous répondre si c'est bon ou pas bon, hein. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a des opinions divergentes sur le sujet. D'abord, quand on fait le bilan donc gaz à effet de serre des biocarburants, donc il y a beaucoup de sources de variations, et particulièrement donc la qualité des données. Dans le monde agricole, on ne dispose pas toujours des données précises, donc à la fois sur les consommations d'énergie, sur les émissions de gaz à effet de serre autres que du CO2 lors de la culture des plantes. Il y a également donc un facteur important qui est la prise en compte du stockage du carbone dans le sol ou dans les plantes qui se trouvaient dans le sol, sur le sol, donc avant qu'on ne fasse de la culture de biocarburant. Il y a également donc des facteurs tels que la prise en compte ou non de l'usage dans le véhicule derrière. Et puis il y a surtout donc les méthodes d'affectation des impacts, et c'est ça que je voulais vous expliquer. Quand on produit un biocarburant, on dépense de l'énergie. Et quand on produit du biocarburant, on produit également ce qu'on appelle des coproduits, donc ce qui reste et qui est utilisé également. Donc voilà l'exemple de l'éthanol. À partir donc des plantes qui permettent de produire donc de l'éthanol, Il vous reste donc des pulpes et des drèches qui permettent de faire de l'alimentation animale, mais qui permettent aussi de produire de l'énergie. Donc on peut très bien utiliser les matières qui vont rester pour alimenter des chaudières. Et la question qui se pose, c'est entre les deux produits finaux, comment est-ce qu'on répartit les émissions, enfin les consommations d'énergie qui ont été nécessaires pour cultiver la betterave ou la canne à sucre, pour cultiver le blé, le maïs et la pomme de terre, et puis ensuite pour transformer ces matières premières donc en biocarburant, en éthanol et en produits donc dérivés. Consommation d'énergie, ça veut dire émission de gaz à effet de serre. Et donc, comment est-ce qu'on fait la répartition? Alors, il y a une première méthode. C'est d'utiliser un prorata donc entre les deux produits finaux. Et ce prorata, la façon la plus simple de le faire, c'est de faire un prorata en masse. Donc, on pèse simplement donc les produits finaux. Il n'y a pas beaucoup de logique à cela. Un autre prorata, qui est probablement le plus logique et qui est celui qu'on a retenu, donc, nous, à l'ADEME, dans nos évaluations, c'est de faire une répartition donc, au prorata du contenu énergétique donc, des produits finaux. Et puis, le dernier prorata, c'est le prorata qu'utilisent volontiers donc les Hollandais et les Anglais, qui est une affectation donc suivant la valeur économique des produits finaux. Alors ça ne manque pas de logique, mais ce n'est pas facile à appliquer parce que la valeur économique elle peut varier d'un jour sur l'autre et donc c'est difficile à appliquer. Une autre méthode d'affectation qui est la plus logique, mais qui n'est pas non plus la plus facile, donc c'est de prendre en compte les impacts évités. Donc on regarde toutes les consommations qui sont dues à la fabrication d'éthanol. Et par ailleurs, donc les pulpes ou drèches vont permettre de se substituer à d'autres utilisations, comme celle de l'alimentation animale. Donc on va éviter, par exemple, l'importation de soja, qui va permettre de faire des tourteaux et donc nourrir les animaux. Et ça, cette importation de soja, ça a des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on peut, à ce moment-là, diminuer donc, les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'éthanol de ces gaz à effet de serre évités. C'est la méthode qui est la plus logique, mais elle est également très difficile à appliquer parce que le nombre de substitutions possibles est extrêmement élevé et donc on n'a pas de référence. Et donc c'est pour cette raison que nous, à l'ADEME, donc on a retenu la méthode du prorata énergétique. Et l'utilisation de ces méthodes, elle a un grand effet donc, sur la variabilité des résultats. Vous avez ici, donc, ça ce sont des résultats anciens donc, qui datent de 2002, suivant le type de prorata, enfin de méthode utilisée, les gains donc à la fois en énergie non renouvelable utilisée et en émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez par exemple que en utilisant la méthode de la substitution de l'alimentation animale, vous n'avez en gain en énergie que 10% par rapport à la référence essence pour l'éthanol et un peu moins de 20% d'émissions de gaz à effet de serre évitées, et que par contre, si vous prenez la méthode du prorata massique, donc vous avez 55% à peu près d'émissions de gaz à effet de serre évitées, et à peu près la même chose en gain en énergie. Donc vous voyez que suivant donc la méthode que vous choisissez, vous avez des résultats absolument très différents. Alors l'autre facteur très important est celui donc du stockage dans le sol. Quand vous avez un sol qui est utilisé, soit à de la prairie ou à de la forêt, vous avez du carbone qui est stocké à la fois dans les plantes, mais aussi dans le sol. Si vous convertissez cette surface à de l'usage culture pour faire des biocarburants, ou n'importe quel usage d'ailleurs, vous avez donc le changement d'usage qui libère le carbone qui était auparavant stocké, qui le libère dans l'atmosphère. Et donc, si vous voulez ensuite récupérer ce carbone par l'utilisation de biocarburants qui va permettre ensuite donc d'éviter des gaz à effet de serre, il vous faut parfois jusqu'à 200 ou 300 ans pour compenser donc l'émission. Donc vous voyez que le changement d'usage des sols peut, lui, rendre complètement négatif la production de biocarburants. Ce n'est évidemment pas le cas si on utilise du blé qui était auparavant à un usage alimentaire pour faire du blé à usage carburant, parce que là, il n'y a pas de changement d'affectation des sols. Il peut, par contre, y en avoir un indirect, c'est-à-dire que quand vous utilisez du blé pour faire des carburants, il y a forcément ailleurs des cultures de blé qui sont nécessaires pour compenser. Mais il y a également des effets dans un autre sens, c'est-à-dire que quand on exporte nos produits alimentaires de façon subventionnée sur des marchés de pays en développement, on détruit l'agriculture locale avec des produits qui sont trop concurrentiels. Et donc, c'est extrêmement difficile de regarder donc ces impacts indirects. Alors, regardons maintenant la production de chaleur. La plus populaire, bien que la moins répandue, donc c'est l'utilisation de l'énergie solaire avec laquelle on peut à la fois faire l'eau chaude sanitaire d'une habitation, mais également pour partie donc le chauffage via donc des émetteurs de chaleur à basse température et avec toujours un appoint par une autre source d'énergie. Et donc dans nos climats français, donc en moyenne, avec un chauffage solaire, donc on peut couvrir pour la partie chauffage dans une habitation réglementation thermique de 2000, on peut couvrir 33% des besoins et 67%, ça c'est des résultats moyens donc sur l'ensemble de la France, mais avec une bonne homogénéité, quelle que soit la zone climatique. Donc au total, on couvre à peu près donc la moitié des besoins totaux en chauffage d'une habitation. Lorsqu'on renforce l'isolation, donc les performances thermiques de l'habitat, si on avait fait les mêmes essais sur une habitation en réglementation thermique 2005, on aurait obtenu un taux de couverture encore meilleur. L'énergie renouvelable qui est la plus utilisée chez nous pour le chauffage, c'est le bois énergie. Alors, c'est aussi bien dans des grandes chaufferies. Donc, vous avez la chaufferie de Besançon sur le réseau de chaleur en illustration. Mais c'est aussi dans les habitations individuelles. Donc, il y a encore environ 6 millions de foyers en France qui se chauffent totalement ou partiellement au bois. Alors, malheureusement, avec des appareils qui ne sont pas toujours très performants et qui peuvent avoir des émissions dont je parlais tout à l'heure, des émissions qui ne sont pas très bonnes pour la santé, des émissions de poussière, des émissions de COV, etc., qu'il importe donc de réduire dans le futur. Autre utilisation donc, qui est la géothermie. On a ici, donc, par exemple, en Île-de-France, une nappe. Là, j'ai plus beaucoup de temps. On a ici en Île-de-France, sous les pieds, une nappe d'eau chaude qui est à 80 degrés, à 1500 mètres de profondeur. Et donc, on peut aller récupérer donc, l'eau de cette nappe. Alors, comme c'est une eau très chargée en sel, on doit la réinjecter. Ensuite, on ne peut pas la mettre à l'égout. Donc, on fait deux forages, qu'on appelle un doublet, et qui permet.